was pleased.
Oh, we're going to start right now, basically.
Hello, everyone. We're going to get started now with the forum on DNA.
Bien, bonjour. Nous allons commencer le forum sur les abus de DNS. Je suis Marci Mailan. Je vais présenter nos modérateurs, André, Philippe, Sizi, Nex, être le modérateur de cette session et vous donnera davantage d'informations sur ce que nous attendons. André, Philippe, vous avez la parole. Bien. Alors, bienvenue à tous. Je pense que nous avons entendu beaucoup de choses très intéressantes sur les façons de créer un Internet, un nouveau domaine. Maintenant, nous devons comprendre que l'Internet, ce n'est pas seulement pour les personnes honnêtes, mais aussi pour d'autres personnes. Donc, cette session va être sur les abus de DNS, le côté sombre de l'Internet et de l'espace, du cyberespace. Nous avons une discussion sur cette question. À côté de moi, nous avons quatre personnes qui s'y connaissent dans ce domaine, qui sont experts dans ce domaine. Et nous allons avoir trois présentations. La première va être faite par Martin Peterka, la deuxième par Blanco Stevanovic et ensuite par Christopher Mellon et par Christopher Andy. Donc, la première présentation va être faite par Martin Peterka, qui est un collègue à moi, qui est qui travaille dans la compagnie. C'est le président d'un organisme et il va vous parler un petit peu de son expérience d'un organisme donc national tchèque. Il va nous parler SRT national tchèque. Il va nous parler de son expérience dans la région et ça va être très intéressant. Donc nous lui donnerons la parole. Martin, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci de me présenter. Martin Peterka. Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de notre association, CZNIC. Je vais vous présenter notre équipe de sécurité, comment nous travaillons. Et je vais décrire quelques incidents que nous avons résolus. Et à la fin de ma présentation, je voudrais vous présenter notre directeur du secteur de fraude et les outils que nous utilisons. Commençons donc par CZNIC, qui est une association et qui a été fondée en 1998 par 12 ISP importantes en République tchèque et nous avons une adhésion ouverte pour les membres, différents groupes de membres et nous avons plus d'une centaine de membres actuellement. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 employés et notre secteur d'activité principal est donc l'opération du registre CZ du domaine CZ. Nous avons signé avec les agences de sécurité nationale tchèques focalisées sur tout ce qui concerne la République tchèque et la sécurité dans ce domaine. Nous sommes une organisation à but non lucratif et nous avons une série d'activités. Par exemple, nous avons un centre de formation, nous avons un département et qui travaille sur le développement de logiciels. Nous avons bien sûr une équipe de sécurité et chez CZNIC, nous avons deux équipes de sécurité. La première est une équipe interne, CISNIC interne, et CISERT qui travaille sur notre système interne. Comme nous n'avons pas de et un système de clientèle autonome, nous avons un réseau et normalement nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Mais le deuxième rôle de notre équipe est beaucoup plus important de notre point de vue parce qu'il est directement lié aux questions de registre. Notre équipe est capable de travailler sur les domaines qui ont un contenu dangereux, virus, spam, botnets, centre de botnets, virus, etc. Si nous trouvons donc un site dont le contenu peut être dangereux, nous pouvons activer et désactiver ce domaine pendant un mois. Et si c'est nécessaire, on peut le faire un peu plus, pendant un peu plus de temps. La deuxième équipe de sécurité opère au niveau national. C'est l'équipe CISERT nationale. Nous travaillons depuis donc l'année 2011 et jusqu'à la fin de l'année 2010, on travaillait avec une association académique de CISNIRT qui dépendait du ministère de l'Intérieur. Et cet accord a conclu à la fin de l'année 2011 et CISERNIC était d'accord pour continuer l'opération de cette équipe. Et donc nous avons commencé en 2011 et nous avons commencé à transférer l'agenda de l'association CISNIRT. Et nous avons ce transfert s'est achevé à la fin de l'année. Donc depuis juin 2011, nous sommes en opération, nous opérons complètement et nous travaillons bien sûr avec des collègues de CESNET. Notre principal rôle est le rapport des incidents et la maîtrise de ces incidents. Nous travaillons bien dans ce domaine, mais nous avons différentes expérience. Par exemple, l'année dernière, nous avons analysé les données de DNS autoritatif, de serveurs de DNS autoritatif et qui étaient considérés comme non sûrs au niveau des résolveurs de DNS. Et donc, on a envoyé cela, on a envoyé des lettres aux administrateurs, aux gestionnaires de ces noms de domaine en leur expliquant comment on pouvait les aider. Comme certains résolveurs étaient au niveau du réseau gouvernemental, on a coopéré dans ce projet avec le service de sécurité et Check et mon équipe organise des activités comme des réunions, des ateliers pour la communauté et nous avons des cours spéciaux et qui sont focalisés sur la sécurité et qui se sont donnés au niveau de notre centre de formation. Nous coopérons avec les organisations internationales et par exemple, peut-être que vous connaissez Terena et d'autres. Et ENISA, par exemple, CISERT est accrédité depuis le mois d'octobre 2011. Donc, voilà certaines statistiques de notre équipe que vous pouvez trouver sur notre page web, si ça vous intéresse. Et vous pouvez voir ici les principaux incidents que nous avons dû résoudre à travers notre système de détection. Et la plupart du temps, c'était un problème de phishing, des problèmes de phishing. Et je voudrais parler de deux incidents qui ont eu lieu, que nous avons résolus dans le passé. Le premier était un incident l'équipe de CISERT a résolu au début du mois de juin 2012. Et c'était une amplification du DNS. L'autre est un peu plus ancien. Et je vais parler d'un cas de phishing que nous avons résolu au niveau du CISNIC et du CISERT en 2010. Commençons donc par l'amplification du DNS. L'objectif ici était une banque cette attaque a eu lieu contre les services de DNS du monde entier. La plupart étaient situés aux États-Unis, mais certains étaient en Europe aussi, et 172 se trouvaient en République tchèque. Donc, notre équipe a résolu ce problème grâce à notre équipe qui nous a envoyé, des données que nous avons analysées. Nous avons trouvé des informations sur les gestionnaires. Nous les avons contactés. Nous leur avons demandé de corriger certains aspects. Et les attaques se sont conclues au bout de quelques jours, comme d'habitude. Mais pour nous, c'est un progrès parce que nous sommes encore en contact avec les gestionnaires et nous essayons de les aider à continuer à résoudre les problèmes. Aujourd'hui, apparemment, 50% du DNS les problèmes de DNS ont été réglés. Les noms de services qui étaient concernés par ces attaques étaient des noms de services que nous avons communiqués l'année dernière au cours d'une présentation de statistiques. Et donc, nous avons comparé ces données et nous avons constaté qu'il y avait 5 ou 6 de ces qui figuraient dans les deux listes. Passons à l'attaque de phishing en 2010. Cette attaque a commencé par une plainte d'un de nos registraires qui avait enregistré plusieurs domaines pour des titulaires étrangers, pour différents noms de domaines, des services de noms de domaines, et tous étaient payés par des cartes de crédit volées. C'est quelque chose qui n'est pas très courant en République tchèque. Donc, nous avons fait une enquête et nous avons constaté que sur le site il y avait donc des Trojan Horse qui attaquaient les organisations gouvernementales et pour, par exemple, les impôts. Et ce Trojan ressemblait à des applications qu'il faut utiliser si on veut résoudre certains problèmes dans la présentation des impôts. Et pendant les 5 jours, pendant 5 jours, nous avons enregistré 150 domaines. Et avec les experts de l'IRS et des registraires, et notre équipe a pu contrôler ces domaines et situer. Et la plupart de ces domaines ont été désactivés rapidement, 1 heure après enregistrement, ce qui est un bon délai. Le résultat était que 5 jours plus tard, les enregistrements se sont arrêtés. Et donc, on peut dire qu'on a eu du succès dans notre travail. Mais lorsque nous avons discuté de ce problème, nous avons décidé que ça ne suffisait pas d'être préparé pour affronter certains incidents et que nous devions être plus proactifs, essayer de situer les problèmes avant que l'incident ait lieu. Donc, avec notre laboratoire, le laboratoire de Cisnic, nous avons organiser un système qui s'appelle gestion de domaines frauduleux, et ce sont des logiciels qui utilisent des données venant de sources publiques et qui stockent des données concernant les problèmes de phishing et les problèmes de contenu frauduleux. Nous utilisons différents outils, différentes ressources pour ces applications. Et avec des données sélectionnées sur certains sites et sur certaines sources et des données de contact pour ces domaines. Et comme notre application est contactée avec un système de tickets, et nous pouvons communiquer avec les gestionnaires, avec ces contacts et contrôler pour voir comment on peut résoudre ce problème. Sur ces sites, on a commencé avec des applications au mois de juin. Et voilà, nous avons ici quelques résultats. Pendant cette année-là, nous sommes orgueilleux de dire que nous avons pu supprimer 11 000 et quelques pages, donc plus de 2 000 domaines. qui ont été nettoyées. Sur ce tableau, vous voyez les problèmes de phishing. Nous avons un pourcentage de pages de phishing entre juin et décembre 2011 qui ont été désactivées. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une baisse importante de 6% en juin à 2% en décembre. Et ce tableau n'a pas été complété parce que le problème de phishing doit être analysé au niveau de tout le pays, mais je suis sûre que le gestionnaire de domaines frauduleux a été aidé par ce travail que nous avons réalisé. Et cette application est de source ouverte, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez l'utiliser. Et vous avez ici un lien sur ce projet. Merci pour votre attention. Merci, Martine. Donc, nous allons maintenant entendre la présentation des registres de CCTLD. Vous aurez le temps quand tout le monde aura fini de poser des questions. Donc, maintenant, je vais demander au prochain orateur de faire sa présentation. Branko Tamenkovic va faire sa présentation. Il a travaillé dans des projets de cybercrime, de cyberdélit au niveau européen, au niveau international. Et il a travaillé pour le procureur en Serbie. Merci, Monsieur le Président. Branko Stamenkovic prend la parole. Comme le président l'a dit, je suis Branko Stamenkovic. Je travaille au bureau du procureur pour le cyberdélit. Donc, il répète. Et oui, je dépends du gouvernement. J'appartiens au secteur de la justice et je pense que cette première réunion d'ICANN, et je dois remercier l'invitation qui m'a été faite, est d'un grand intérêt pour moi. Mais soyez bons parce que je dois partager dans ma présentation trois niveaux de ce qui se fait actuellement lorsqu'il s'agit des problèmes de cybercrime au niveau local, à la racine et au niveau des tierces parties, et certains cas que nous avons trouvés en Serbie. Au niveau mondial, nous avons un outil lorsqu'il s'agit de lutter contre le cybercrime et c'est un outil qui est la Convention de cybercrime de l'Europe, du Conseil de l'Europe, et CETC 185, qu'on appelle aussi la Convention de Budapest, qui a été signée et ratifiée et en 2001. Et 47 pays ont signé ou ratifié cette convention. Et nous pensons qu'il y aura beaucoup d'autres pays encore qui vont se joindre à cette convention contre le cybercrime. Ce qui est intéressant de cette convention, c'est qu'elle dépend du Conseil de l'Europe en tant qu'organisation des États européens, mais qu'elle est ouverte pour sa ratification pour tous les pays du monde. Comme vous le voyez, la Serbie a ratifié cette convention en 2005 et elle a signé en 2005, elle l'a ratifié en 2009 et elle a commencé à l'appliquer en 2009. Et les États-Unis l'ont signé en 2001, l'ont ratifié en 2006 et l'ont mis en vigueur en 2007. Donc cet outil implique les autorités des États-Unis et de la Serbie dans une force conjointe qui travaille dans le monde entier. Le traité, c'est le premier traité international sur le crime et à travers donc Internet. Et il a donc une série de domaines dans lesquels il est compétent. Ici, vous voyez sur l'écran que le cyberespace conduit donc à différents travaux qui sont divisés en cinq groupes. D'abord, la défense de la confidentialité. Ensuite, la lutte contre la fraude informatique. Ensuite, la
la pornographie des enfants, etc. Ensuite, la combinaison de différents problèmes tels que spam, phishing, etc. Lorsqu'il s'agit des délits contre la confidentialité, le système d'Internet, les abus de DNS, etc., il y a un accès et nous avons un accès légal pour le système informatique avec une interférence de données. Et dans la portée des outils de la Convention de Budapest, dans le secteur de la loi, je dirais que nous avons un accès légal, une interception et contre les problèmes d'illégalité et la fraude, la pornographie des enfants, les infantiles et interception des données informatiques. Donc tout cela dans tous les pays, tous les pays qui ont ratifié ou signé cette convention doivent avoir au sein de leur cadre local légal, hein, dans chaque pays, tous ces outils légaux, hein, dans leurs droits. Et à la fin, finalement, ça va permettre que toutes les autorités criminelles, et lorsqu'il s'agit de cybercrime dans le monde, vont travailler sur une seule et même page avec les mêmes outils, ce qui va faciliter notre travail et pour lutter contre le cybercrime dans le monde entier. Ensuite, au niveau local, nous avons l'exemple serbien qui a commencé dans les années 90. Une tâche importante qui a été faite et que nous devions réaliser était au niveau national. Heureusement, le gouvernement de la République serbienne et le ministre du programme numérique a adapté un système qui est un système clé et un document clé lorsqu'il s'agit de l'organisation de cette protection et de la protection de l'Internet et du cyberespace de la Serbie au niveau de l'État. Comme vous voyez, la stratégie nationale pour le développement inclut la confiance des citoyens, des utilisateurs et la sécurité des données personnelles. Et nous travaillons sur le besoin d'utiliser des mesures de sécurité, protection des données personnelles. Et donc, ce qui est spécifique dans mon pays, c'est que très tôt, nous avons compris qu'il fallait avoir des outils et des autorités spéciales au niveau du gouvernement pour combattre le cybercrime. Et même au niveau de l'Union européenne, ce type de spécialisation est rare actuellement. Et une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'être spécialisés dans mon pays, dans ce domaine, c'est que la portée et le poids du cybercrime étaient très élevés pendant les années 90 et au début des années de l'année 2000. Et donc, une ignorance des poursuites et du système judiciaire dans mon pays faisait que on a pensé qu'une autorité spéciale pourrait résoudre ce nouveau défi qui existait au niveau national et pourrait nous permettre donc de lutter contre le cybercrime qui affectait notre pays, la Serbie, et qui affecte aussi le monde entier et effectué par les délinquants de notre pays. Donc on a commencé en 2000-2004, on a mis en œuvre un projet de loi a été présenté, il a été proposé à l'Assemblée nationale. 2004-2005, la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et en 2005, à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous avons donc cette loi spéciale sur l'organisation et sur la compétence des autorités spéciales du gouvernement pour lutter contre le cybercrime en Serbie. Et cette loi comprend l'organisation, c'est une loi de procédure, ce n'est pas une loi substantielle, elle inclut l'organisation à trois niveaux. Et pour les autorités gouvernementales, d'abord, il y a un service spécial au niveau du ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y a un bureau de procureur et une cour spéciale pour le cybercrime à Belgrade. Il est clair que avec ces autorités gouvernementales. Nous sommes maintenant au début de la formation d'une recherche au niveau national. Nous avons fait un système, nous avons le CRT académique, mais pas donc gouvernemental. Donc nous voulons mettre en place cet organe pour protéger la Serbie du cybercrime. Et rapidement, je voudrais vous montrer ici que nous avons trois groupes d'actions criminelles qui sont différentes, et de la loi criminelle, pardon, qui sont différentes selon l'exécution du délit en lui-même, et c'est la façon dont les délinquants agissent. Et ici, il faut souligner que tous ces actes, donc ces délits, sont en ligne avec la Convention de Budapest. Comme je l'ai dit, nous avons un bureau du procureur spécial. Nous avons aussi un service spécial pour la suppression du cybercrime au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous avons une organisation avec la Cour, le tribunal, comme je l'ai dit, une chambre spéciale. Et nous avons une cour spéciale, un tribunal spécial à Belgrade qui traite donc ces questions. Vous voyez ici les données pour le bureau, les coordonnées du bureau du procureur. Actuellement, nous avons nous traitons actuellement plus de 2600 affaires. Et ici, quelque chose à propos de ces affaires. Ici, vous voyez cette image avec ce masque, ce fameux masque. Cette affaire est assez récente. C'est la première affaire au cours de laquelle on a trouvé une organisation qui s'appelle Anonymous en Serbie, qui a attiré notre attention par leur tentative pour entrer dans certains serveurs du gouvernement. Et le defacing du ministère de la Justice, du bureau du procureur et de autres autorités gouvernementales et des sites de ces autorités. Cela a eu lieu. Et donc, certains proxying et DNSing étaient utilisés par ce groupe Anonymous. Le proxying a été utilisé et à la fin de la journée, lorsqu'on a fait des recherches et des saisies, on a constaté que avait été réalisé pendant les 6 derniers mois et qu'ils étaient parvenus à mettre en place 776 opérations de phishing dans le monde entier et en Serbie. Donc, une seule personne avait pu pénétrer à ce moment-là 50% de l'ISP serbienne et il avait pris le contrôle du service de ces ISP et des serveurs, ce qui veut dire qu'il pouvait contrôler le flux de données sur les serveurs de certains principaux ICP de la Serbie. Une des principales menaces est les abus dans le domaine des cartes de crédit et ces cartes de crédit concernent toujours des identités fausses, des données volées, des identités volées sur Internet. Et l'utilisation de la carte de crédit donne lieu à beaucoup de proxys dans le monde, mais aussi en Serbie. Et donc, finalement, à la fin de l'exécution de cette affaire criminelle, on a des citoyens, des compagnies des fois, mais souvent la plupart du temps des citoyens qui se voient qui constatent un vol de leur propriété sur leur carte de crédit et donc on comprend que ce type de crimes sont dangereux pour le public en général et pour tout le monde, disons. Une des affaires criminelles que nous avons aussi rencontrées, c'est la pornographie infantile sur Internet. Et par définition, il s'agit toujours de les personnes qui réalisent ces crimes vont utiliser des proxys anonymes et des faux DNS ou des serveurs dans des sous-réseaux ou d'autres branches de l'Internet sur lesquelles ils vont contrôler et des espaces de l'ISP ou du gouvernement. Donc, lorsqu'on cherche ces délinquants, on doit savoir qu'il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup de connaissances et beaucoup de coopération internationale. À certains moments, nous avons rencontré une coopération qui n'était pas vraiment très bonne au niveau des ISP étrangers, mais je dois admettre que nous avons une coopération impeccable avec les autorités américaines dans ce domaine, et je pense que le danger de la pornographie infantile sur Internet réveiller tous ceux qui sont un petit peu endormis dans ce domaine, et parce que c'est un danger qui est important. Voilà quelques cas intéressants sur les abus des domaines d'Internet, qui étaient donc le cas de Europe.com, un DNS faux et un site faux ont été détruits par les responsables de Serbie qui ont demandé au système de surveillance des directions en ligne des États-Unis. Et lorsque ce type d'exécution a eu lieu, ils ont accéléré leur conduite, et vous allez voir maintenant certains articles acquis, achetés sur Internet. Donc vous voyez une guitare et des objets dont le prix allait de 2 000 à 20 000 dollars, et nous avons même vu saisir des bicyclettes par exemple, un peu n'importe quoi. Donc c'est très intéressant. Et une moto de course, pardon. Donc actuellement, ce que les délinquants sont prêts à faire au cours de l'exécution des actes criminels pour avoir des gains financiers et pour envoyer cette moto des États-Unis à Belgrade en utilisant un avion cargo, et le reste des attaques de DNS qui ont lieu souvent et qui peuvent donner lieu à de graves dommages, préjudices, non seulement pour les ISP, mais aussi pour les utilisateurs des ISP, c'est-à-dire les compagnies, et finalement, et pour les citoyens aussi de ces pays. Par exemple, dans le cas de cette attaque de DDS qui a eu lieu en Serbie et qui a vraiment annulé l'accès à Internet en Serbie pendant 12 heures. Donc, le réseau central de communication de fournisseurs à l'extérieur de la Serbie et le principal fournisseur en Serbie a été en danger. Et pendant 12 heures, nous avons eu aucun trafic qui pouvait entrer ou sortir de Serbie sur Internet. Donc, annulation du trafic sur Internet. En résumé, je dirais que je suis membre du gouvernement. J'appartiens au système de justice. Mais vous pouvez voir dans ma présentation que nous avons une spécialisation au niveau des autorités gouvernementales, et nous pensons que cette spécialisation va devoir augmenter auprès des fonctionnaires et surtout au niveau des organisations gouvernementales légales. Et nous allons voir de plus en plus de procureurs spécialisés, de juges spécialisés aussi dans ce domaine, et ils seront donc les personnes qui vont devoir et gérer ces problèmes, demander davantage d'informations, et qui vont devoir demander des informations à l'étranger. Nous n'allons plus pouvoir rester à l'intérieur des frontières de notre pays, parce que nous savons que il s'agit de crimes transnationaux. Et donc, nous allons devoir utiliser les outils qui sont dans notre position, comme la Convention de Budapest, pour demander des preuves, des informations. Et nous allons le faire en coopération avec nos collègues des agences de mise en vigueur des décisions légales ou de la loi. Heureusement, nous pensons que c'est la protection de notre société et en général et des sociétés du monde entier. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.
Merci pour ta présentation. Nous aurons une autre présentation qui va montrer la méthodologie de recherche et l'appropriation de noms de domaine qui va être présentée par deux personnes du gouvernement, du département de sécurité intérieure du gouvernement des États-Unis. C'est le centre d'investigation sur les cybercrimes. Nous avons alors Christopher Malone, Christopher Landy. Donc c'est Christopher Malone qui parle. Merci, Monsieur le Président, et merci, Margie. Je suis Chris Malone, je suis agent spécial pour le département de recherche sur la sécurité intérieure du département de sécurité interne et je travaille au centre de cybercrime à Washington, D.C., ce qu'on appelle le C3. Avec mon collègue ici présent, on va présenter, nous sommes des membres ad hoc, du GAC pour le groupe consultatif d'application de la loi. Et comme vous savez, nous avons défendu l'idée d'avoir un organisme qui défende les affaires de gouvernance Internet pour ce qui est des intérêts d'application de la loi. Et donc, on travaille sur la transition de l'IPv6 et les périodes de rétention standardisées et la précision des enregistrements. Mais lorsque je parle ici, et on a déjà discuté ceci les dernières 48 heures, je suis ici au nom de la précision et de l'importance des données WHOIS pour nos activités de recherche. Lors de nos discussions avec ce groupe, on a des membres ici présents du FBI et du service secret du DAA, de la DEA, et on a aussi des collègues du Royaume-Uni et du NCRP et des gens de la RCM et de l'Europe, et on partage cette vision d'importation et de l'importance des données WHOIS et comment il est important pour nos activités de recherche. Et dans mes échanges avec eux, on a discuté le fait que les gens pensent que nos activités de recherche sont un peu conventionnelles et ceci semble évident, mais peut-être parfois les gens ne connaissent pas les méthodologies dont on se sert pour faire nos recherches. Et donc, vu ces sujets, ces commentaires, j'ai préparé une présentation sur des aspects un peu peut-être mondains de notre nature qui traite sur l'importance de la précision de données pour initier nos activités. Et aujourd'hui, je me présente comme défenseur du chercheur dans le champ qui fait ses activités de champ et qui recherche, et non pas du point de vue politique ni comme défenseur. Même si on défend les bonnes politiques de gouvernement, mais je défends la conduite des agents dans le champ. Donc, pour préciser la valeur de cette précision de données, un agent dans notre organisation acquiert des informations d'adresse IP de n'importe quelle façon, à travers de différents moyens, peut-être à travers des contenus qui sont contenus dans un site web. Et peut-être que ce sont des données d'adresse IP associées à des échanges d'emails ou des emails qui révèlent des activités qui peuvent être criminelles. Et peut-être comme information IP que l'agent donc acquiert. Pour initier une réponse, il doit se rendre sur les ressources ouvertes, libres, de code ouvert, et suivre le titulaire de ce registre pour identifier qui est le délinquant. Et donc, il va se servir d'outils, de WHOIS, pour voir comment le site web se sert des outils et des méthodologies pour se connecter, on espère, à un fournisseur de services Internet. Et l'agent cherchera donc à suivre les processus légaux sous un juré, une investigation de tribunal dans mon pays. Et potentiellement, on cherchera le titulaire de ce registre pour identifier l'offense, qui est la personne qui a fait cette contrefaçon. On ne parle pas ici d'outils et d'autorité parce qu'ils sont déjà mis en place. Et ma discussion avec mes collègues est qu'eux aussi, ils ont des outils et des autorités, en fait. Et peut-être qu'on identifie des modifications qu'on voudrait faire aux autorités ou aux outils. Mais ici, il ne s'agit pas d'expansion ou d'élargissement. Il s'agit de processus légaux qui sont en train d'être scrutinisés de façon légale, non pas à la discrétion du rechercheur, de l'investigateur. Et à un moment donné, le processus, à fin de compte, devra passer par cette évaluation judiciaire et les membres de notre groupe de pairs devra être évalués par un juré. Et on ne cherche pas à élargir ces outils, comme j'ai dit. Ce qu'on dit est que ce serait une étape qui devrait être critique pour commencer à avoir ces registres de façon précise. Et lorsqu'on génère ces subpoenas, on ne pourrait pas espérer que la personne réponde immédiatement. On a entre 14 et 30 jours pour le faire, pour répondre. Et les données qui ne sont pas précises à la fin de cette période de 30 jours sans réponse du fournisseur Internet mènent à une nouvelle demande, à un nouveau fournisseur Internet. Que ce soit parce qu'on n'a pas eu de réponse ou alors parce que la réponse n'a pas été précise quant aux données transférées. Et alors, vous imaginez que le plus obstacle que nous avons, le plus de temps à prendre d'élargir ce processus. Et vous savez peut-être que ces données ont une date d'échéance. On ne retient pas toutes les données. Dans mon pays, on a discuté, et je sais qu'on est en train de discuter toujours, quel est le délai de temps pendant lequel on pourrait retenir les informations. Et mes collègues de RCMP vont traiter ce sujet dans leur propre pays. Mais tout délai nécessaire pour acquérir les informations précisément, bien sûr, font que la recherche prenne davantage de temps. Et donc, pour obtenir, à travers un processus légal, les informations dont on a besoin pour présenter les demandes aux fournisseurs Internet, et l'adresse IP même n'est pas la panacée. Ceci est un pas qui déclenche une série d'autres mesures et qui requiert d'autres outils d'investigation pour connecter la personne qui paye les factures avec le potentiel délinquant, qui n'est peut-être pas le délinquant ou la personne qui commet des délits qui est incluse sur cette diapo, mais la due diligence de l'agent va inclure l'identification du cible, de l'individu cible, et obtenir l'évidence numérique et d'autres sortes d'évidence qui pourraient être utiles pour le procureur. Et donc, on fait des efforts pour commencer à travailler, pour pouvoir identifier les délinquants, pour peut-être pouvoir faire davantage de recherches qui pourraient être nécessaires. C'est ça qu'on voudrait préciser. Et d'habitude, on entend parler de ces ressources qui devraient être limitées. Et je défends l'agent donc dans le champ qui doit investiguer 20 ou 3 cas, qui doit prendre ses mesures et suivre ses étapes et ses mécanismes au fur et à mesure qu'il avance dans sa recherche pour découvrir le potentiel crime en ligne et ses évidences dans les périodes élargies que nous devrions permettre qu'ils reçoivent des réponses précises de la part des fournisseurs Internet pour la précision des données WIS. Donc, ayant dit ceci, Président, si vous me permettez, je passe la parole directement à mon collègue. Bonsoir tout le monde. Comme André a dit, je m'appelle Christopher Landy. Je travaille dans le centre d'investigation, de recherche de crimes du département de sécurité interne. Je voudrais féliciter mon collègue de parler d'une panacée. Pour se servir de ce terme, on avait parié qu'il n'allait pas réussir à le faire, mais je vais discuter brièvement ce qui se passe après l'identification d'un nom de domaine, que ce soit un domaine hôte de pornographie enfantine ou alors d'un viol de droit de propriété intellectuelle. L'un des outils dont on pourrait se servir pour avoir les informations qui portent atteinte sur Internet sont les appropriations des noms de domaine à travers un processus légal. Vous pourrez vous faire peur, mais en fait, on veut être compréhensif et parler de ce sujet, l'aborder sérieusement. On ne va jamais interrompre d'activité légale. Donc, en fait, on cherche à avoir des personnes très déshonnêtes, c'est-à-dire des personnes qui sont titulaires d'un domaine avec des images de pornographie enfantine, avec des images d'enfants de 2 ans qui sont en train d'être violés. C'est ça qu'on cherche. Et donc, l'une des premières étapes, c'est d'identifier l'URL complet. On veut être sûr que tous les caractères ou toutes les erreurs typographiques soient exactes. Parce qu'en fait, si on fait une petite erreur de frappe, on peut avoir un autre domaine qui n'a rien à voir. Et puis, on veut savoir qui hôte ce domaine, ces informations illégales, ces données illégales, ce contenu. Où est-il? S'il se trouve sur un sous-fichier, un sous-dossier, où est-ce que ce sous-dossier est contenu? Et puis, on va vérifier des contenus. On pourrait acquérir des informations sur le URL de la part d'un citoyen privé, d'une agence d'application de la loi ou même d'un des titulaires des registres. On va d'abord vérifier le contenu. Est-ce qu'il s'agit d'abus enfantins ou alors des matériels de IPR qui ont changé? Ou alors, est-ce qu'il faudrait capturer donc les contenus du site web pour que si la personne le change pour de propos légaux, on devra savoir quand est-ce qu'on a trouvé ces informations sur ce site. C'est là que les informations sont importantes, parce que si on peut déterminer qui est le titulaire de ce site web, qui l'a enregistré, qui est le registrant, ceci pourrait conclure la recherche. Et pour certains cas, ceci veut dire que les victimes enfantines sont téléchargées en images même en ligne, en temps réel, qui sont en train d'être violés. Et tous ces crimes peuvent être identifiés. Une fois qu'on les a identifiés, on vérifie les contenus justement dans le URL. Et on cherche les activités de contenu illégal. Où est-ce que se trouvent ces contenus? Et on devra voir s'il y a des activités illégales, parce que parfois, on ne l'a pas. Ce qu'on fait d'habitude, c'est de passer un processus légal pour faire que ce site soit fermé. On ne va pas appeler le titulaire du registre pour qu'il ferme ce nom de domaine. On doit le notifier du fait qu'il y a des contenus illégaux, mais on va toujours traverser le processus légal pour qu'il fasse les démarches légales pour fermer son site web. On va devoir passer par ces démarches. Puis, on voit un peu plus sur les différentes locations où ceci pourrait être contenu. Mais je voudrais me rassurer que tout le monde comprenne que nous ne faisons pas un suivi ni fermons des sites où on a une image avec un copyright. Ce qu'on cherche, c'est des personnes qui gagnent des milliers de dollars ou des millions de dollars avec beaucoup d'images de pornographie enfantine ou des fabrications des producteurs de pornographie enfantine. C'est ça, ce sont les sites qu'on est en train d'arrêter. Et ayant dit ceci, André, vous avez la parole encore une fois. Merci Christopher pour cette intéressante présentation. En ce moment, vous pouvez poser vos questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bien, nous avons une question. C'est André Philippe qui parle. S'il vous plaît, dites votre prénom avant de poser la question. Bonjour, je suis Frank Schilling et je suis un candidat connu ou surnommé le Uniregistry, c'est un registrant de nom de domaine. Et lorsque je vous entendais parler, je trouve que cette fin de la session était très intéressante. Et le consommateur Internet et l'opérateur de registre pourraient avoir le risque de vivre dans un monde où tout le monde pense à la vengeance. Avant, on agissait d'une telle façon, on avait un processus à suivre, une due diligence, et le gouvernement nous protégeait. Le risque est qu'on continue à vivre dans un monde où, même si les intentions que vous avez sont bonnes, on fait des erreurs. On le lit tous les jours sur Internet. Et finalement, on arrive à des endroits où on ne voulait pas arriver. On a des intentions pures et respectables. Personne ne veut voir la pornographie enfantine, bien sûr. Et en fait, lorsqu'on devient le victimaire ou le juge ou le juré, où on a l'application de la loi, on passe un jugement et peut-être qu'il s'agit d'une évolution naturelle de la technologie. Et une partie de ceci nous fait penser au monde avant Internet. Ça nous énerve. Vous savez, est-ce que vous pourriez parler, est-ce que vous avez des discussions internes sur, bon, est-ce que ceci est un peu trop, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce que, au lieu de, vous savez, de vivre cet embarras de vous avoir trompé, ou est-ce que vous avez des mécanismes de contrôle interne, ou alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de contre-mesures, est-ce que vous avez des systèmes de contrôle? C'est ça. Est-ce que vous pourriez parler de cet aspect? Oui, bien sûr, nous avons des mécanismes de contrôle. Moi-même, je ne pourrais pas compléter une recherche moi-même. Ce sont plusieurs niveaux. On a un agent dans le champ, on a des superviseurs, on a des dispositions de première ligne, de deuxième ligne. Un cas peut être amené chez un procureur, un juge ou n'importe qui doit réviser. Donc on a des mécanismes de contrôle. Je vous ai entendu dire des extralimitations. Est-ce que le gouvernement s'extralimite? Je ne veux pas parler de trop, mais et je ne vais rien dire là-dessus. Mais je peux vous dire que la raison pour laquelle l'application de la loi vient dans ces réunions est parce qu'on conçoit la communauté en tant que communauté. Et donc, on vient pour chercher des réponses ici. On ne veut pas qu'on nous dise qu'on doit législer, mais on cherche à entendre dire, bon, c'est ça notre problème, c'est ça qu'on voit en tant que communauté technique qui gère Internet, comment peut-on résoudre ce problème? Comment est-ce qu'Internet pourrait continuer à être aussi libre qu'elle l'est actuellement sans ces gens malhonnêtes qui gâchent tout pour tout le monde? Voyez? Donc, malheureusement, de toute façon, pour certaines personnes, le viol des enfants n'est pas un problème. Oui, bon, je pense que personne ne veut penser ainsi et c'est pour cela qu'on a des agences pour l'application de la loi. Mais puisque vous avez des mécanismes de contrôle, on se réunit 3 fois par mois. Bon, en fait, non, pas récemment, mais on entend parler tous les mois, en tout cas, de ce type de crime. Et ce n'est pas vous de ce type de délit, mais on s'intègre là-dessus et on ne sait pas quelle est la limite, jusqu'où on peut arriver. Et si personne ne dit rien, peut-être qu'on se demande, est-ce qu'on s'est extralimité? Est-ce qu'on devrait chercher une limite? et donc passer le pouvoir des États-Unis au registre étranger. Je ne suis pas un Américain, mais j'habite aux États-Unis, j'adore les États-Unis, mais je pense qu'il y a un risque impliqué qui pourrait être de s'extralimiter, de surpasser la conclusion logique, d'arriver au point où l'équilibre de pouvoir passe d'un environnement eurocentré. Et c'est ça qui ne me laisse pas dormir le soir. On a besoin d'avoir un mécanisme de contrôle. C'est pour cela qu'on vient dans ces réunions, pour pouvoir parler de ce problème, pour le résoudre. Je voudrais élargir ce qu'on a mentionné du mécanisme de contrôle. Oui, le mécanisme de contrôle principal des chercheurs sont les instruments du pouvoir judiciaire de tous les pays qu'ils représentent. Donc, par exemple, moi, j'ai un procureur dans ma juridiction qui est ici présent, je ne sais pas où, mais lui, en lui-même, est un contrôle. Et je ne vais pas présenter un cas qui peut gagner, qui ne peut pas gagner, et il ne va pas présenter un cas qui ne peut pas gagner à un juré supérieur. C'est un juré de 12 personnes potentiellement. Donc, ce sont des élargissements à futur qu'on doit considérer. C'est une zone grise d'activité d'intelligence, n'est-ce pas? Ce sont des investigations légales qui sont approuvées et ce sont des outils judiciaires honnêtes pour obtenir ces genres d'informations et qui couvrent les couches qu'on devrait inclure au niveau les plus basiques où un investigateur ne va pas chercher des informations qui ne sont pas pertinentes pour sa recherche. C'est pour cela qu'on a un mécanisme de contrôle, n'est-ce pas? Margie, c'est Nancy qui parle. C'est la fin de la session, on n'a plus le temps. Est-ce qu'on peut finir avec la queue? On a le temps ou pas? D'accord, vous avez 5 minutes maximum. Bien, merci. Je suis Elliot. Je veux parler de la langue dans ce dialogue. Christopher, tu as fait une référence à la pornographie enfantine et la propriété intellectuelle une fois, et la pornographie enfantine 5 fois. Et tu as dit que ce n'était pas des images isolées, c'était des gens qui gagnaient des millions de dollars, ou de milliards de dollars même. Donc je voudrais que tu identifies une propriété qui se soit rapproché à des milliards de dollars. Et je répète ceci parce que les données publiques disponibles suggèrent que la large majorité de ces références impliquent des problèmes de propriété intellectuelle et que l'élargissement des délits de propriété intellectuelle se sont multipliés ces dernières 5 années, disons. Donc, lorsqu'on parle de ces problèmes, je trouve que c'est incroyable de n'avoir personne ici dans la salle qui soit à faveur ou qui soit pour la pornographie enfantine. On ne va pas y parvenir à trouver une personne. Mais on a d'autres problèmes plus polémiques autour des expansions des droits de propriété intellectuelle et c'est de là que ces problèmes viennent. C'est là qu'on a cette réponse. Dans le Royaume-Uni, nous avons non seulement l'expansion, l'élargissement des crimes de propriété intellectuelle dans un pays, mais c'est en fait même l'application extraterritoriale de ces lois. Et ceci est une portion significative non seulement pour la communauté Internet, mais pour toute la communauté d'utilisateurs Internet. Et je suggère, puisque nous allons revenir armés contre la pornographie enfantine et contre d'autres problèmes qui constituent des délits sérieux, pour qu'on puisse avancer dans cette voie contre l'élargissement et qu'on continue à travailler pour élargir la coopération et les droits de propriété intellectuelle, si on pourrait battre les problèmes de délits les plus sérieux et certains des problèmes qui sont plus significatifs pour la communauté, si on peut appliquer les droits commerciaux privés. Merci. Oui, Christopher prend la parole, Christopher Landy. Je te remercie de faire ce commentaire. C'est plutôt une question législative. Je peux parler aux politiques de mon agence. Je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas. Mais je peux dire qu'on a des crimes financiers qui font des profits de milliards de dollars. Et dans certains cas, nous avons des liens avec IPR et parfois on voit des viols d'IPR. Est-ce que c'est la seule corporation qui est impliquée? Non, mais peut-être c'est la seule corporation qui gagne des milliards de dollars. Et donc on investit, on recherche ce type de délit. Et quant à l'IPR et à rejoindre... En fait, c'est plus facile. Pour moi, il s'agit d'un problème d'investigation politique, de recherche politique. Et le public sait ce qu'il sait. Il veut qu'on applique les lois. Il faudrait voir comment ils veulent qu'on change les lois. Je ne vois pas que tout le monde fasse du lobby pour qu'on leur permette de violer des enfants ou de moi. Donc les viols d'IPR, oui, je comprends ce que tu veux dire. On a un conflit là-dessus et je le comprends et je comprends ce que tu veux dire. Merci. C'est une question brève, s'il te plaît. Oui, ça prendra une minute. C'est Zahid Jamil. D'habitude, on parle très vite pour décrire nos problèmes, mais je voudrais parler sur l'IPR. Et je parle dans mon propre nom, je représente personne. Mais je viens d'une zone du monde où l'IPR... est un aliment pour le crime organisé. Peut-être que dans les États-Unis, vous avez d'autres aspects là-dessus. Mais je voudrais soutenir votre travail dans cet aspect. Mais par rapport à l'approche centrée sur les États-Unis, pour moi, on a un problème que le reste du monde n'a pas jusqu'à présent dans l'application sur Internet. Et ceci porte sur ce que Franco a dit du crime organisé. Comment est-ce que vous considérez ceci en tant que crime organisé global ou régional? On dit parfois qu'il s'agit d'une organisation régionale. Pour moi, les États-Unis n'ont pas un problème tel, et dans le Canada ou l'Union européenne ou le Japon. Comment voyez-vous ceci par rapport à la permission des parties à travers les frontières d'accéder dans la convention? Est-ce que ceci serait utile? Et puis, je voudrais avoir des copies de votre présentation parce que je ne la vois pas en ligne. Oui, elle devrait être en ligne en ce moment, dit Margie. Je pense qu'on n'a plus le temps en ce moment. Bon, je réponds rapidement, dit Branko Stamenkovic. Oui, je vois que la Convention du cybercrime est un outil global parce qu'il a été soutenu par tous les membres du Conseil d'Europe, conjointement avec les États-Unis, comme vous avez dit, et Japon va ratifier cette convention. Elle va le faire dans la conférence d'octobre. Il y a quelques semaines, on a maintenu cette conférence et le Conseil d'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud et du Loyen-Orient. Et on va mettre en place la convention du cybercrime et pour la ratifier. Et donc, les outils légaux ont été... mise en place par la Convention de Budapest et ses dispositions, et ils ont été mises en place dans les cadres légaux de chaque pays. Donc, c'est un grand outil que l'on se sert de lui direct ou indirectement, et on aura davantage de pays qui se rejoignent à ce processus. Bon, merci à tous les orateurs, dit André Philippe. Merci pour la discussion et merci à Margie d'avoir organisé cette session aussi intéressante. Merci.